Nous voulons implorer la bénédiction de Dieu sur ce dernier moment de très courte méditation et qui doit se poursuivre par ce que nous vous avons annoncé sur le programme, le culte d'adoration dans la liberté de l'esprit et devant converger vers la suprême action de grâce, qui est la traduction du mot Eucharistie, suprême action de grâce, ce que nous appelons le repas du Seigneur, qui, avant de quitter les siens, a exprimé un désir clair, très précis de son cœur, en instituant dans le repas de Pâques ces signes, en disant « Faites ceci en mémoire de moi ». Donc, nous allons terminer la lecture et la courte méditation de cette fin de chapitre qui, comme vous avez dû le constater, pourrait amener dans nos cœurs des pensées peut-être divergentes. C'est pas facile de finir une retraite par ce chapitre, mais nous voulons aller jusqu'au bout et nous laisser instruire simplement par la parole. Et si vous avez d'autres pensées, eh bien, c'est votre affaire entre vous et le Seigneur. C'est pour ça que j'ai mis que le dimanche après-midi, ce serait la conclusion de Saint Paul. Et non pas la conclusion de Racine ou d'un autre. Je lis les derniers versets. Verset 33e. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Il est donc question là de femmes qui sont mariées, puisqu'elles ont un mari. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Une autre version dit « Il est honteux à une femme de parler dans l'église. » Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Souvenez-vous que Paul s'adresse aux Corinthiens. Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Ô Dieu notre Père, conduis-nous dans cette dernière méditation, possède entièrement nos pensées, rend les captives de l'obéissance du Christ, et que d'un cœur purifié, lavé dans le sang de l'agneau, puisse sortir des paroles descendues du sanctuaire et pénétrant des cœurs qui aujourd'hui désirent aussi devenir le sanctuaire du Seigneur Jésus. Amen. Eh bien, mes amis, comme nous le rappelions il y a un instant, dans notre dernière rencontre, et avant de célébrer ce culte d'adoration qui a pour sommet, disions-nous, le repas du Seigneur, nous avons donc à examiner ces quelques versets, 34 à 40, de l'un de ces chapitres qui a servi de toile de fond à notre thème, le don de prophétie exercé en accord avec la foi. Ces versets donc, que je viens de lire, terminent l'instruction de Paul sur l'usage des dons et du bon ordre qui doit régner dans une assemblée. Et si Paul a dû écrire ainsi à l'église de Corinthe, c'est parce qu'un grand désordre régnait dans cette communauté. Et voyez-vous, c'est là qu'il faut toujours replacer un texte dans son contexte, un chapitre dans l'ensemble d'une épître, et je dirais même une épître dans l'ensemble de toute l'écriture. Sinon, nous pourrions nous égarer en voulant isoler quelques versets. Nous avons vu que deux ou trois personnes se levaient dans cette assemblée de Corinthe et parlaient en langue sans interprète et par conséquent sans édification, cherchant avant tout, sans peut-être s'en rendre compte, ce qui les exaltait à leurs propres yeux ou aux yeux des autres. Des fois, on ne se rend pas compte de nos propres motivations. Mais des frères parlaient tous ensemble. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cela ou entendu cela. Alors, on peut toujours nous donner des explications en tirant un autre verset. Par exemple, de l'Apocalypse, j'entendis la voix d'une foule nombreuse, comme la voix des grandes eaux. Mais on ne comprend pas ce qui est dit. Alors, cela fait beaucoup de bruit, on est comme aux chutes du Niagara. Tous ces frères qui parlent ensemble, est-ce que c'est cela que Dieu désire? Alors, l'apôtre leur dit, comme nous l'avons vu ce matin, que deux ou trois personnes pouvaient parler en langue, mais chacun à son tour. C'est pas moi qui le dis. Chacun à son tour, mais avec interprétation de leur langage. Parce que on doit pouvoir comprendre ce langage. De même, avons-nous lu deux ou trois prophètes. Il n'est pas dit tous les prophètes comme au verset 24, mais deux ou trois prophètes pouvaient parler. Quand l'Esprit de Dieu avait donné quelque chose à un second, qu'est-ce que le premier devait faire? Il devait se taire. Car il est dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. La puissance spirituelle des prophètes leur est soumise. Dans un prophète, quand la puissance spirituelle agit, eh bien, cette puissance lui est quand même soumise, en sorte qu'il peut vraiment s'arrêter et laisser la place aux autres. Dieu ne nous viole pas, et il nous laisse cette liberté de pouvoir nous taire, même si on est dans l'inspiration. Et en cette manière, l'ordre est maintenu dans la maison de Dieu, et je dirais aussi, pas seulement l'ordre, mais la liberté de l'esprit. Il n'y en a pas qu'un qui fera tout. Et alors, en dernier lieu, l'apôtre s'adressait aux femmes. Et si vous lisez cette épître, vous verrez que ce n'est pas la première fois qu'il s'adresse aux femmes dans cette lettre. Et je trouve très malheureux d'isoler ce chapitre et de faire de Paul, comme certaines personnes l'ont fait, un misogyne, de dire que Paul, il n'aimait pas les femmes. Bien, vraiment, alors vous ne connaissez pas du tout Paul. Et il y a un chapitre que vous n'avez jamais lu pour pouvoir dire que Paul n'aimait pas les femmes. C'est le chapitre 16 de quel épître? L'épître aux Romains, où il sait parler des femmes et de ses collaboratrices avec un amour incroyable, exceptionnel. Il parle même de l'une d'elles comme étant sa mère. C'est quelque chose de merveilleux. Il faut absolument rétablir cet équilibre. Paul est loin d'être un ennemi de la femme. Et quand il voit deux sœurs qui ont été ses collaboratrices dans l'œuvre et qui ne s'entendent plus, mais qu'est-ce qu'il leur dit? Il écrit à un des anciens qu'il supplie. Comment s'appellent-elles ces deux femmes qui se crépellent chignon? Enfin, c'est peut-être ajouté, ça. Il faut que je fasse attention. Mais enfin, elles ne s'entendaient pas, et pourtant elles étaient servantes du Seigneur. Je supplie Évodie, et je supplie Saint-Tiche, n'est-ce pas, de se réconcilier, d'être ensemble, d'avoir une même pensée. Ça peut arriver qu'il y ait des difficultés, mais on ne va pas en rester dans cet état de difficulté. Ce n'est plus un témoignage dans l'Église et dans l'Assemblée. Et alors, vous voyez, il a tellement à cœur, du fond de sa prison, il pense à une Évodie, il pense à une Saint-Tiche qui se bagarre à Philippe, où il a aussi une femme qu'il aime beaucoup. Il y a même un livre qui vient de paraître, La femme que Paul aimait. Comment s'appelait-elle? La première convertie d'Europe, Lydie, marchande de pourpre à Philippe, et qu'on a supposé être celle qui soutenait le plus l'apôtre Paul au point de vue finance, parce qu'elle dirigeait toute une affaire. C'était une commerçante, mais son cœur s'était ouvert à la prédication de Paul, parce que Dieu avait ouvert son cœur, et quand son cœur a été ouvert, qu'est-ce qu'elle a ouvert aussi? Sa maison. Et au fond, les débuts de l'Église de Philippe ont été dans cette maison de Lydie, marchande de pourpre. C'était un commerce qui était très florissant de ce temps-là, surtout pour Rome. Elle livrait beaucoup de toges à Rome, et donc elle avait des moyens financiers. Et quand Paul écrit aux Philippiens, il leur parle justement que c'est d'eux, au fond, qu'il a reçu le plus de dons, des offrandes tout à fait spéciales, qu'il a pu accepter, alors qu'ailleurs, justement, il ne voulait pas accepter des dons. Paul savait refuser, et il ne voulait pas être dans la dépendance des uns ou des autres. Mais ce qui venait de Corinthe, pour lui, c'était une offrande acceptable, agréable à Dieu, un parfum de bonne odeur. Voilà ce que Paul écrivait à l'église de Philippe. Eh bien, je vous invite, je me souviens toujours, j'étais un jour en Angleterre, j'avais 30 ans à ce moment-là, et j'ai entendu une méditation à Londres sur ce 16 des Romains, et cela m'avait beaucoup marqué. La délicatesse de l'apôtre, citant toutes ces femmes, est la première qu'il appelle la servante du Seigneur, la diaconesse qui s'appelle Phébé, n'est-ce pas? Donc, l'apôtre a eu beaucoup de respect pour la femme, il l'a estimée très haut en amour, mais il a aussi osé dire aux femmes certaines vérités. Et nous revenons à la fin de notre chapitre où il invoque une certaine loi quand il dit « comme dans toutes les églises des saints ». Donc ce n'est pas n'importe quelle église, mais les églises donc des saints, qu'est-ce que c'est qu'un saint? C'est quelqu'un qui s'est séparé du monde. C'est quelqu'un qui ne subit pas la pression du monde, l'influence du monde, les habitudes du monde, ce qui se passe dans le monde. Nous étions du monde, nous sommes encore dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde pour marcher comme le monde. Le monde peut faire bien des choses, mais dans l'Église des saints, nous recevons une direction du Seigneur et je suis absolument certain que les femmes ont dans l'Église du Seigneur, quand elles sont en communion avec lui, le désir de plaire au Seigneur. Mais l'apôtre leur souligne que dans l'Église du Seigneur, eh bien, il ne faut pas bavarder, que vos femmes se taisent. Et l'on m'a dit, ici même, que spécialement dans la première rencontre, il y en avait qui parlaient entre eux. Je n'en sais rien. On me dit des fois bien des choses, mais on se passait des billets ou je ne sais pas trop quoi, de sorte que certains pouvaient penser qu'on n'écoutait pas. Peut-être qu'ils n'étaient pas encore dans l'immersion totale de l'écriture. Alors, on peut comprendre cela. Mais quand on voit des gens qui bavardent entre eux dans une réunion, eh bien, ça n'édifie pas tellement le prédicateur qui se dit, bien, je devrais les laisser parler. Parce que certainement, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant, ce qu'ils se disent, puisqu'on a l'air de les écouter, que ce qui est prêché. Que vos femmes se taisent dans les assemblées. Et il faut dire que la loi qu'il évoque, c'est cette loi qui a été établie par qui? Par Dieu, après la chute, selon laquelle la femme doit être soumise à son mari. Genèse 3, verset 16. On peut prendre aussi 1 Timothée 2, verset 12, pour ceux qui veulent des références, ou Éphésiens 5, verset 22, que les femmes doivent être soumises à leur mari, mais aussi que les maris doivent aimer leur femme. Et ce que l'apôtre Paul veut souligner ici, c'est qu'il y a dans la parole en public une domination morale qui est contraire à cet ordre établi, aussi bien qu'à la nature de la femme. J'ai toujours pensé qu'une femme qui était vraiment femme, quand elle doit se mettre en avant, c'est un peu à son corps défendant. Car la femme, par sa nature, et si elle le pouvait, si les choses étaient comme elles devraient être, elle voudrait trouver dans l'homme un soutien, un appui, un protecteur. Elle voudrait être pour l'homme une aide qui lui corresponde, une aide qui l'édifie. Mais j'ajoute immédiatement que Paul a restreint sa défense par ces mots dans les églises, dans les églises. Alors, ce qu'on est obligé de constater, c'est que aujourd'hui, l'esprit qui souffle sur cette terre, c'est l'esprit du monde et non pas l'esprit de Dieu. Mais vraiment l'esprit de ce monde qui nous entoure et qui conduit les âmes sur un chemin d'indépendance à la parole de Dieu, et j'irai même jusqu'à dire de désobéissance. Alors, que nous soyons tous attentifs à la parole. Si vous pensez autrement, eh bien, l'apôtre dit, si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Quand il écrivait cela, il avait des raisons absolument valables pour le faire, et il voulait que l'ordre soit maintenu dans l'Assemblée de Dieu. Mais j'ajoute ici que, selon l'Écriture, c'est spécialement de l'enseignement de la parole. Il n'est pas parlé de la prière, il n'est pas parlé d'un témoignage, mais certainement de ce qui pouvait troubler une réunion d'assemblée. Il y en a qui vont beaucoup plus loin, je ne vais pas si loin. Et je dirai immédiatement que toute règle comporte aussi des exceptions. Et je vous l'ai dit l'autre jour, assis dans un culte à côté d'une jeune femme qui n'avait pas beaucoup d'instructions bibliques, en entendant un frère lire une parole de l'Écriture, elle s'est levée, elle a dit « Cette parole fait exploser mon cœur » et elle a béni le Seigneur, confirmant l'Écriture qui avait pénétré son âme. Et c'est là qu'elle a dit, comme c'est vrai ta parole. Bien, vous savez, ça nous a tous poussés à une véritable adoration. De sorte qu'il n'était plus question qu'il y ait des hommes ou qu'il y ait des femmes, mais c'était l'ordre dans l'assemblée, elle n'a pas troublé quelque chose, et son cœur a débordé. Ce n'était pas une rengaine, ce n'était pas des mots habituels, puisqu'elle a osé employer. C'est vrai que j'étais assez imbécile, malgré toute mon instruction, pour creuser ma fosse. Et c'est toi qui es venu et qui m'en as sorti. C'était tellement beau et tellement édifiant et tellement vrai. Et il y avait des larmes qui coulaient de ses yeux. Bien, chers amis, nous ne voulons pas limiter le Saint-Esprit, mais je dirais qu'au sujet de l'enseignement, eh bien, si les femmes, bien souvent, ont pris, au fond, la parole dans ce monde pour le Seigneur, c'est à cause de l'incurie de qui ? Des hommes. J'ai reçu des lettres de femmes missionnaires en Afrique du Nord qui m'ont dit, après des messages que j'avais donnés dans une convention en Suisse, à Morges, combien elles étaient reconnaissantes que j'ai souligné cela, qu'elles devaient accomplir un ministère pour lequel elles ne se sentaient pas faites enseigner des hommes, et qu'elles auraient aimé qu'il y ait des hommes qui, au lieu de les financer, viennent, eux, pour faire ce travail. Elles n'ont pas été frustrées parce que j'avais rappelé la parole de Dieu. Et c'est vrai que si les hommes se taisent, disait Jésus, les pierres crieront. Alors combien plus peut-il faire parler les femmes avant de faire crier les pierres, hein? Si ceux-ci se taisent, les pierres crieront. Eh bien, le Seigneur a donné plusieurs exemples. Il a suscité des femmes. Mais quand on voit, quand il les a suscitées et qu'elles ont dû prendre la tête d'un groupe, c'est toujours à leur corps défendant. Et je pense spécialement à Déborah, qui en Israël, dans un temps de ruine, dans un temps de faillite spirituelle, était juge en Israël sous son palmier. C'est pas elle qui allait de lieu en lieu, mais on venait la consulter sous son palmier. Et le général Barak, qui devait être à la tête de l'armée, est venu la trouver et lui a dit, si tu ne viens pas avec moi, je ne marche pas. Alors, elle lui a dit, ce n'est pas à moi d'être à la tête, c'est à toi, mais si tu veux absolument que je vienne, il n'y aura pas de gloire pour toi dans cette affaire. C'est pas moi qui le dis, c'est un exemple que je vous donne. Chapitre 4 du livre des Juges, Déborah annonce à Barak que Sisra, le général de l'armée adverse, tomberait entre les mains d'une femme, de Jaël, la femme du Kénien, qui a reçu Sisra, le général, en fuite, qui lui a demandé de l'eau et de le cacher. Elle l'a pris sous sa tente. Au lieu de lui donner de l'eau, elle lui a donné un bon bol de lait. Puis après, quand il s'est endormi, elle lui a dit qu'elle veillerait. Mais elle a pris un pieu, et puis le maillet, et elle y a crevé la tempe. Et quand Barak est venu, ben le voilà ton ennemi. Il était mort entre les mains d'une femme. Jaël, il y a beaucoup de femmes en Israël qui s'appellent maintenant Jaël dans ce souvenir. Mais ce que je dis ici, c'est que Déborah a signalé que, au fond, c'était pas elle qui voulait prendre cette place. Alors je dis, Dieu est entièrement libre de faire ce qu'il veut. Et il y a un psaume que j'aime aussi beaucoup, c'est le psaume 68, qui dit, « Grand fut le nombre des femmes qui annoncèrent la bonne nouvelle. » Voyez-vous, le Seigneur a besoin des femmes. Et puis alors, s'il est parlé de l'enseignement dans l'Église, qui devrait être fait par des hommes, l'enseignement dans l'Église, eh bien, ça ne limite pas du tout le ministère de la femme. Si la femme voyait le ministère qui est devant elle, elle ne chercherait pas à supplanter l'homme dans le ministère que Dieu a confié à l'homme. Voilà ce que, modestement, je peux penser de l'Écriture. Je ne crois que nous devons simplement subir l'esprit du monde à cause de l'émancipation de la femme. Cette émancipation qui ne lui donne pas tellement de bonheur, tout au fond. Parce que d'abord, on ne lui donne pas le même salaire, et il y a toutes sortes de différences. Alors, voyez-vous, je pense que la femme sera bénie si elle se conforme à l'Écriture sainte. Mais je dis encore ici, je ne parle pas de l'action de grâce, de la prière. Mais dans une assemblée publique, il faut qu'on se souvienne que nous ne devons pas nous laisser aller à nos sentiments, ou comme ça se fait dans tant d'églises maintenant, des espèces de partage dans un culte où l'on parle de ses haricots, où l'on parle de son chat, où l'on parle de n'importe quoi. Bien, peut-être que les hommes ne sont pas plus intéressants non plus. C'est une faiblesse incroyable qui ruine nos églises. Alors que si nous inspirions davantage à ces dons spirituels, eh bien, nos églises ne ressembleraient pas à des cimetières. Mais il y aurait vraiment la vie. Et il y aurait aussi l'ordre dans l'Église. Alors, si quelqu'un pense autrement ou veut ignorer que nous n'avons pas besoin d'actualiser la parole parce que nous ne serions plus dans le même temps, on voit les mêmes misères, on voit les mêmes insuffisances dans tous les milieux, ce désordre qu'on a trouvé à Corinthe avait une raison, une cause. Eh bien, je vous le demande, ne terminons pas notre traite dans la division, mais dans l'unité de l'esprit. Demandons au Seigneur de sonder notre cœur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde s'il y a en moi quelques voies de chagrin et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Parce que si vous voulez prendre littéralement que vos femmes se taisent, elles ne devraient pas chanter non plus. Alors, il ne faut pas être des fanatiques de certaines choses. Il nous faut voir ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors maintenant, c'est à vous.